Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing Électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accord DIAC, voir fr.renew.auto. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Vous écoutez
RMC. RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous, les grandes gueules du sport, c'est votre émission de 9h à midi en direct. Évidemment, si vous êtes sur la route des vacances, faites très attention à vous et on vous souhaite de très très belles vacances. N'oubliez pas d'écouter RMC, on est là tout l'été, les GG, l'émission de sport que tu peux écouter en voiture, en pyjama ou les deux en même temps. Au sommaire des grandes gueules du sport, dans quelques instants, la une des GG. Le Tour de France a basculé cette semaine, le roi est mort, vive le roi. Vingegaard s'est emparé du trône et du maillot jaune avec plus de 2 minutes d'avance. Pogacar peut-il encore renverser le Tour? À 10h, la punchline des GG, signé Benoît Paire, qui s'est confié sans détour cette semaine sur l'alcool, son mental, son désamour du tennis. Deux points, ouvrez les guillemets, je vais repartir à zéro, ça fait 2 jours que je n'ai pas bu, je suis en pleine cure. Croyez-vous à son renouveau? À 11h, la seconde des GG, autour des lofters du Paris Saint-Germain, ces indésirables qui doivent rapidement faire leurs valises, en tout cas rester à quai à Paris alors que le groupe entame une tournée au Japon, le traitement des lofters. Est-ce que ça vous choque, mes GG? C'est parti pour les grandes gueules du sport.
Bon, ce qui est important dans une équipe, c'est justement l'équipe.
Un programme chargé, vous l'avez compris ce matin. Avec l'équipe des grandes gueules, une grande gueule qui, comme Tadej Pogacar, a été numéro 1, mais il est tombé sur plus fort que lui et il est retourné à sa place, sagement, dans le peloton. Simon Dutin, salut Simon.
Salut JC, mais écoute, je suis honoré d'avoir le potentiel de Tadej Pogacar. Méfie-toi, hein, ça peut revenir très fort hein, quand même.
Oui, quand on est Pogacar, ça hein. Peut.
Ou pas.
Ou ça peut revenir, ou tu peux prendre 10 minutes de retard.
Dès la semaine prochaine, là, par exemple.
Oui, c'est vrai, à un moment donné, je vais prendre quelques vacances. Merci Simon d'être avec nous. Une grande gueule qui, comme Tadej Pogacar, a déjà pris des roustes face aux Danois, mais lui au moins c'était pas des mangeurs de graines. Olivier Giraud, salut Olivier.
Salut.
Tu les as plus battus ou ils t'ont plus battu ces Danois au hand?
On les a plutôt battus à l'époque.
Ouais, plutôt.
Ouais. Okay. Le chevelu n'était pas arrivé encore.
Oui. Et après il est arrivé.
Est-ce que tu as mangé des graines quand tu étais jeune?
Bah oui, évidemment. Non, je déconne.
Et puis une grande gueule, vous avez entendu sa voix, donc qui, comme Tadej Pogacar, doit tout gérer toute seule au mois de juillet. Marie Martineau, salut Marie.
Salut, bonjour à tous.
Tu fais tous les jours les grandes gueules, non?
Tous les week-ends, ouais, non, déplaise à ceux qui me détestent. C'est pas grave, je suis là encore et encore.
Mais c'est bien, c'est important
bah
comme
oui.
Ça. Parce que ceux qui t'aiment moins, bah peut-être vas-tu réussir à renouer ce lien.
À les convaincre.
Exactement. Ouais. Et ceux qui t'adore, eh bien, ils en ont pour leur argent.
C'est de les garder.
Exactement. Vous le savez, les GG, on est là en juillet, en août. Ça ne s'arrête jamais, même si le retour des GG officiellement pour la prochaine saison, ce sera à partir du samedi 20 août. Et mes chers GG, je ne peux pas encore vous dire le nom, encore le dévoiler, mais sachez qu'il y aura...
De la nouveauté.
Quoi ? Mais c'est pas possible ! Mais c'est pas vrai !
Qu'est-ce que j'entends ? Une recrue incroyable dans les grandes gueules du sport, mais je n'en dis pas plus, un petit peu de teasing.
On peut poser des questions?
Non.
Genre, est-ce que c'est une fille, c'est un garçon, non. Est-ce qu'il y a des petits?
On avait dit qu'on leur disait pas encore que tu m'as embauché, j'y sais.
Oui.
Officiellement.
Oui, on ne le dit pas encore. Voilà, on garde ça sous la manche comme ça, discretos.
Et quand il y en a un qui arrive, il y en a un qui est viré, donc ça aussi, ça va être drôle.
Ah, évidemment. Cette émission va devenir Koh-Lanta et ça va être génial, évidemment.
C'est le maillon faible.
Allez, on débute avec cette citation de Talleyrand qui a dit un jour, le meilleur moyen de renverser. Rien à voir avec
Olivier. J'en peux plus de toi.
Qu'est-ce qu'il y a?
Google citation renverser.
Non, ça c'est de la culture, ça n'a rien à voir. Et ça n'a rien à voir avec Olivier Talleyrand, le mec de Canal.
Qu'on embrasse, évidemment.
Je parle de Talleyrand, évidemment, qui a dit un jour le meilleur moyen de renverser un gouvernement, c'est d'en faire partie.
RMC,
la une des grandes gueules du sport.
Vingegaard derrière qui lance ses hostilités à nouveau. Ah, Pogacar a plus de mal.
Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver?
Pogacar ne peut pas suivre, il écoute dans son oreillette. Il est en difficulté, Pogacar.
Il bluffe là, ça se voit tout de suite. Il a pas l'air de bluffer là quand même.
Il est à la dérive, Pogacar.
Ah, il s'accroche, il
part à gauche, à droite. On l'a jamais vu comme ça.
Il est mort? Je ne crois pas. Il est seulement assommé.
Tadej Pogacar, grand perdant du jour. On n'imaginait pas un tel débours pour lui dans cette étape du Granon.
Je reviendrai.
Le Pogacar. Casque qui pèse très lourd, la tête qui pèse très lourd, et il baisse la tête sur la ligne.
Et nous accueillons pour ce débat la voix du Tour de France. Il vous accompagne toutes les après-midi de ce mois de juillet. Christophe Cessieux, notre GG, est avec nous. Salut Christophe.
Moi aussi un sacré mangeur de graines, hein, comme tu le sais, j'y sais, hein.
Évidemment. Un petit peu comme Benoît Paire, ça fait deux jours que tu n'as pas bu et tu es en pleine
non,
cure actuellement.
Je ne pourrais même pas dire ça.
Non, même pas.
Oui, on savait.
Oui, forcément, il y a eu hier soir, entre-temps. Christophe, merci d'être avec nous. Et évidemment, tu vas participer à notre débat. Alors, le 13 juillet 2022 restera dans l'histoire du Tour de France, un 13 juillet qui aura vu le double vainqueur de la Grande Boucle, Tadej Pogacar, craquer pour la première fois. Lui, l'archi-favori, l'invincible en apparence, a connu une terrible désillusion dans le col du Granon. Il reste désormais une semaine au Slovène pour reprendre les 2 minutes 22 qui le séparent de la nouvelle star, Jonas Vingegaard. La musique qui fout les jetons. Et cette question, Pogacar peut-il encore renverser le Tour ? Oui ou non ? Simon Dutin ?
Oui.
Christophe Cessieux ?
Non.
Marie Martineau ?
C'est un non pour moi aussi.
Olivier Giraud.
Il peut, mais ça va être compliqué.
Ok, j'ai deux oui, j'ai deux non, si je comprends bien. On va écouter le principal intéressé quand même. Tadej Pogacar, après l'étape de l'Alpe d'Huez, après les Alpes. Voici ce qu'il en pense.
I mean, they are strong, they are really strong. But,
ils sont très forts. Vingegaard est l'un des meilleurs grimpeurs, mais je peux le défier. J'essaierai de l'attaquer un jour, davantage qu'aujourd'hui, et nous verrons. Alors oui, ils sont très forts, mais ils ne sont pas imbattables.
They are strong, but they are not unbeatable.
Pogacar peut-il renverser le Tour ? Le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio, le 32-16 évidemment, pour participer à ce débat. Christophe, on débute avec toi. Pour toi, c'est non. Toi qui es au contact des coureurs, tu entends Pogacar. C'est de la com. Il y croit vraiment. Comment tu le sens ?
Ah, je pense qu'il y croit vraiment parce que c'est un garçon qui ne doute pas et depuis le début de sa carrière, il n'a jamais été vraiment mis en difficulté. Il a remporté son premier Tour de France il y a 2 ans. Il avait renversé la situation avec ce contre-la-montre dans la planche des belles filles où il s'était emparé du maillot jaune. Donc évidemment, il ne doute jamais, Pogacar. Mais là, on a senti quand même depuis 48 heures que son regard était un peu moins confiant que les jours précédents parce qu'il se rend compte et notamment il s'est rendu compte dans l'ascension de l'Alpe d'Huez que ce serait très difficile de lâcher Vingegaard qui s'accroche à sa roue lorsque celui-ci démarre et il lui reste assez peu d'occasions finalement de renverser Vingegaard. Il y aura peut-être quelques secondes possibles à prendre aujourd'hui dans l'ascension de Mende. Il y en aura certainement un peu plus dans les deux étapes des Pyrénées-Péragudes et Otacam qui auront lieu mercredi et jeudi. Et puis il restera le dernier contre-la-montre samedi, 40 km. Alors là on nous dit que Pogacar est capable de mettre une tôle à Vingegaard. Mais quand on regarde les chronos et les oppositions entre les deux hommes, on se rend compte qu'ils sont à peu près du même niveau dans le contre-la-montre. On se souvient par exemple que l'an dernier à Laval, le premier contre-la-montre du Tour de France, Pogacar l'avait emporté avec 27 secondes d'avance. Énorme. Eh bien, rendez-vous compte, lors du dernier contre-la-montre à Saint-Émilion, l'avant-dernière étape du Tour de France, c'est Vingegaard qui s'était imposé avec 25 secondes d'avance. Donc vous voyez, les deux hommes sont quasiment égaux dans l'exercice du chrono. Donc c'est pas là qui lui reprendra les 2 minutes 22, il va falloir qu'il attaque dans les Pyrénées, à Péragude et à Otacam. Mais avec l'équipe dont bénéficie Vingegaard, moi je pense que ce sera très difficile, sinon chose impossible pour Pogacar.
Ok, tu n'y crois pas. Qui y croit ? Simon Dutin, il y croit un petit peu plus que tout le monde dans le studio RMC. Simon.
Mais évidemment, on y croit. Il y a encore avant qu'il prenne son éclat dans le Granon, on se disait il est imbattable, il a déjà gagné le Tour. Les questions c'était a-t-il déjà écrasé le Tour ? Il dégageait une impression de sérénité, de domination totale. Donc là, effectivement, il y a eu une défaillance. Et alors ça y est, oh, quel tocard. Alors ce Pogacar, jamais reviendra sur jamais il battra le Danois, mais jamais il battra Vingegaard, mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises, mais jamais il arrivera, et c'est Pogacar, c'est pas, non, mais c'est le coureur ultime, il domine, il gagne sur tous les terrains, il est fâché, faut pas oublier ça, l'ego du champion, il est double tenant du titre. Alors, ok, il a essayé, c'est vrai que Vingegaard a jamais paru aussi fort, en montagne, c'est vrai qu'il y a eu, bon, des tentatives dans la deuxième montée de l'Alpe, de lâcher Vingegaard, c'est vrai que ça va pas, bah, c'est pas tant, en haute montagne. Moi, j'attends de voir ce qui va se passer aujourd'hui à Mende, hein. hein, dans la côte de la Croix-Neuve. Je t'entendais en parler hier, Christophe. C'est la montée Laurent Jalabert. Il a des côtés à la Jalabert. Vingard, c'est un danseur étoile, quoi, un danseur de ballet. Il est taillé pour la montagne. Effectivement, il vole en montagne dès que le terrain grimpe. Pogacar, il gagne sur tous les terrains. Il a battu Van Aert à Tirreno Adriatico l'an dernier. Il a battu Vingard à Tirreno de cette année. Il est meilleur que lui en chrono. Il y a le chrono la veille de le chrono de Rocamadour. Là, il y a 40 bornes. Ça m'étonnerait que Vingard puisse le battre ou rester au contact. Il y a effectivement ces deux étapes de Peyragudes et Hautacam. Mais avant, même à Foix, c'est mardi, je crois. Il y a deux cols de première catégorie. Il y a de la descente derrière. Je sais pas. Il peut attaquer. Moi, je le vois bien. De toute façon, sur l'ego, sur son mental, oui, sur le ressentiment, il a dit moi dans le granon, j'ai fait des erreurs, je les ai identifiées. Moi, je me méfie de Pogacar.
Ok, plutôt non pour toi. Il ne peut pas renverser le tour, Marie Martineau.
Moi, je crois pas qu'il ait fait beaucoup d'erreurs. Il s'est fait attaquer, re-attaquer, re-attaquer. Il a fait tout ce qu'il a pu. Il est certes monstrueux, mais il n'est pas non plus. Il peut pas être seul face à un seul homme face à toute une équipe.
Oui, mais on le pensait. Il y a encore.
On pensait pas que son équipe allait être aussi défaillante que ça. Et puis on pensait peut-être pas que la jumbo était si énorme. Ce qui s'est passé mardi, c'est que ça a ouvert une porte à deux choses. Ok, il a pris un éclat. Donc au chrono, c'est quand même compliqué. Aller remonter 2 minutes 20, ça va quand même pas être simple. Même si, il le dit, il y a quand même un peu de place et il y a des étapes à venir. Mais il a aussi ouvert la brèche de il est battable. Et il y a tout un peloton qui a les crocs et plusieurs équipes et il roule dessus. Et donc il a débloqué quelque chose de l'ordre du psychologique aussi, tu vois, dans ce peloton. Et ça change la donne. Après, il a des équipiers de dingue. Oublions pas quand même qu'il a Roglic comme équipier, par exemple. Enfin, je veux dire, c'est fou furieux. D'avoir autant de qualité autour pour t'amener au bout. Donc Vingegaard, je sais même plus comment il faut l'appeler. En attendant, il a pas l'air très facilement influençable, il a pas l'air très facilement attaquable. On a bien vu que Poggi a essayé de l'attaquer là dans la montée de l'Alpe d'Huez. Ça ne donne rien, alors que les attaques habituellement de Pogacar, c'est incontrable. Et là, c'était juste il a tenté mais ça fonctionnait pas. Donc je le vois très esselé et même si on sait et j'étais la première dimanche dernier à dire c'est vous dire qu'il était imbattable Pogacar. Donc je ravale mes arguments et au vu de ce qui s'est passé, je me dis que ça va plus être très aussi simple que ça, quoi.
Ok, la psychologie en tout cas, il a ouvert quelque chose Pogacar avec cette première défaillance et c'est la première fois qu'on assiste à ça sur le Tour de France, même dans sa carrière à ce point-là. Olivier Giraud.
On se posait la question au début du tour. Quand on comparait les deux équipes, on disait la Jumbo, c'est beaucoup plus costaud. Mais on avait mis un bémol sur la Jumbo parce que on se disait c'est une équipe avec 3 leaders potentiels. À un moment, les mecs vont pas s'entendre. Peut-être qu'il y en a qui vont jouer leur carte. Et finalement, le leader, il s'est décidé de lui-même. Et par contre, on n'aurait jamais pensé, et j'aurais jamais pensé que un mec comme Roglic se sacrifierait pour que Vingegaard soit devant. Et que là, ce que tu vois, c'est que Pogacar, lui, il avait une équipe un peu plus faible, mais une équipe solide. Il y en a deux qui tombent pour le Covid. Donc déjà, il se retrouve tout seul. On se dit qu'il peut tout faire tout seul, mais de ce que j'ai vu hier, Vingegaard, il est vraiment très très bien entouré. Très très bien entouré. Et là, pour que Pogacar mette un éclat à Vingegaard et à toute son équipe, parce que c'est pas seulement Vingegaard qui est en face de lui, et ben va falloir qu'il choisisse les très 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 bons coups pour pouvoir s'échapper, pour pouvoir mettre sous pression cette équipe. Et que aujourd'hui, il l'observe, il le cadre, et il est un petit peu tout seul aujourd'hui.
Un petit peu tout seul. Est-ce que tu as senti, et je reviens Simon vers toi, Christophe, est-ce que tu as senti chez lui plus qu'une force et une impression de puissance, quelqu'un qui a la rage, Pogacar, quelqu'un qui veut laver l'affront?
Alors, il a la rage, mais tu sais, comme depuis le début de sa carrière, il garde toujours ce sourire de jeune adolescent. Même lorsqu'il a été battu l'autre jour dans le col du Granon, quelques secondes après, il avait le sourire, il était sur le podium, il recevait le maillot blanc. Donc, on n'arrive pas à déceler vraiment la rage au fond de lui. C'est pas un Armstrong, c'est même pas un Froome. Voilà, c'est un garçon qui s'amuse sur le vélo. Alors, évidemment qu'il a été touché dans son orgueil, parce que ça ne lui était jamais arrivé de se prendre une telle correction, finalement. 2 minutes 20, quand même, Pogacar, évidemment, mais jamais il n'a connu ça de sa carrière. Alors, je pense qu'au fond de lui, il est très déterminé, mais il ne le montre pas. Donc, on va voir un peu comment ça va se passer. Mais pour lui, le vélo, c'est un amusement. Hein. Il le prend pas, il le prend au sérieux, évidemment, mais il n'a jamais la hargne que pourraient montrer les cannibales du passé, par exemple.
Christophe, encore une fois, moi, j'y reviens. Dans le Granon, c'est pas l'écart de niveau qui existe entre Vingegaard et Pogacar en montagne qu'on a vu. On a clairement vu une défaillance. Ça arrive. Oui, c'était la preuve. Voilà, fringale. C'est la preuve que ça arrive. Évidemment.
Oui, mais, Simon, je suis d'accord avec toi. Simon, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que tu penses que Vingegaard, lui aussi, va connaître la fringale? Parce qu'il n'y a que comme ça que Pogacar peut battre Vingegaard.
Ouais. Moi, Christophe, après, je ne connais pas.
Parce qu'autrement, dans les premières étapes du Tour de France, il ne lui a pris que quelques petites secondes.
Oui, mais
avant l'étape du Granon, il n'y avait que 39 secondes.
Et n'oublie pas le chrono. Moi, je connais
pas. Il lui a pris 26 secondes, je crois, dans les bonifications.
Oui.
Donc, s'il n'y a pas une défaillance de Vingegaard, Pogacar ne gagnera pas le Tour de France.
Moi, là où je ne suis pas d'accord, alors, je ne connais certainement pas assez le cycliste pour pas dire des bêtises, mais il y a 40 bornes de chrono en fin de tour. Pour moi, Pogacar, il est largement au-dessus.
Tu vois, capable de prendre 2 minutes sur un...
Non, je te parle pas, je te dis pas de 2 minutes 20, je te dis juste, je pense qu'il peut reprendre en
30 secondes, pas plus de 30 secondes.
Il peut lui prendre plus que ça.
On fait les paris, Simon, pas plus de 30
secondes. Mais parlons, moi, écoute, effectivement, je fais un pari. Encore une fois, c'est pas Pogacar, va-t-il gagner le tour? Je te dis, je pense qu'il est capable de lui prendre au moins une minute sur 40 bornes. Il y a une 30 à reprendre à Vingegaard. Je pense qu'il est capable de...
Vingegaard peut le perdre, que Pogacar peut le gagner, finalement.
On ne sait pas trop, parce que moi je me souviens de la première victoire de Pogacar quand même. C'était sur un chrono où personne s'y attendait, personne ne s'attendait à ce qu'il reprenne. C'était sur la planche des Belles Filles avec ce chrono. Alors oui, c'était en montagne, c'est pas du tout le même dénivelé que pour ce chrono de ce Tour de France 2022. Mais personne ne s'attendait à ce qu'il éclate à ce point-là, Primoz Roglic, et lui prenne le maillot jaune sur l'avant-dernière étape.
C'est ce qui fait tout le sel, en fait, et qui nous rend cette fin de Tour de France juste super excitante quand même, parce que justement tout peut encore arriver, même si ça se dessine d'une certaine manière. Ouais. Voilà,
sur le dernier, 25 secondes.
Il reste là-dessus, en tout cas sur ces 25 secondes. Il y a Alexandre qui nous dit via le direct studio, à l'instar de Lewis Hamilton, Pogacar a appris à perdre et ça peut faire très mal.
Je sais pas. Ouais, je sais pas. Je vais te dire honnêtement, moi je me suis pris à la course cette année parce qu'il y a un vrai suspense. Et que tout le monde a peur, hein. Tout le monde a peur d'attaquer, tout le monde a peur de craquer. Tu sais, tu prends l'interview de Gaudu qui était complètement effondré parce que lui pensait ne pas tenir et il s'est dit à la fin d'une montée, j'ai pas osé y aller, j'ai eu peur de craquer et qu'il aurait pu faire un meilleur temps.
J'ai pas assez confiance en moi.
Et donc là sur ce tour, ça se tient aussi. Moi, je le dis, l'équipe de Vingegaard est forte. Et elle le protège. Et aujourd'hui, je ne vois pas comment, tout seul, à part jouer un gros coup ou une défaillance de Vingegaard, comment Pogacar va pouvoir l'enfumer.
Alors, la 14e étape, c'est aujourd'hui, à suivre l'intégral tour, à partir de 14h, comme tous les jours, évidemment, autour de Christophe Cessieux. Christophe, Saint-Etienne, Mende, deux questions. Déjà, est-ce qu'on peut voir une attaque des leaders sur cette montée Laurent Jalabert? Et puis, deuxième, est-ce qu'un Français peut enfin gagner sur ce Tour de France 2022?
On l'espère, évidemment, que les Français vont peut-être se mettre enfin à glaner des étapes. Il faut rappeler quand même qu'il n'y a que deux fois dans l'histoire du Tour de France où les Français n'ont remporté aucune étape. La dernière fois, c'était en 1999. Donc là, il va quand même falloir qu'il se mette à prendre les échappées et à essayer de jouer une étape de baroudeur. Aujourd'hui, je pense qu'il y aura une course à deux étages, effectivement avec une échappée, et peut-être qu'elle peut aller au bout avec des Français dedans. Et ensuite, l'explication entre les cadors dans la montée Laurent Jalabert. 3 km de montée, c'est très court. Hein, ça va durer une dizaine de minutes.
10%, hein, Christophe. Ça va tabasser.
10%, hein. 10%, oui, 10%. Mais enfin, dans l'Alpe d'Huez et dans le Galibier, il y avait 10, il y avait plus que ça. Donc là, ça va durer 10 minutes. Donc si Pogacar réussit à prendre 4-5 secondes à Vingegaard, ce sera déjà pas mal. Mais voilà. Et puis, s'il termine l'étape en tête, il y aura les bonifications. Mais il ne lui prendra pas grand-chose aujourd'hui. Et le tour ne se retournera pas aujourd'hui. Peut-être dans les Pyrénées, mais pas aujourd'hui, ça soyez-en sûr.
Merci beaucoup mon cher Christophe, on te retrouve à partir de 14h dans l'Intégral Tour avec toute la bande évidemment, Jérôme Coppel, Cyril Guimard, Arnaud Souk sur la moto et Pierre-Yves Leroux, 14h pour l'Intégral Tour. 9h27, si vous voulez de nouveau parler de Pogacar, on vous attend, 11h40, les GG, vous venez affronter InGG. Comme d'habitude, dans quelques instants, nous allons évoquer l'équipe de France féminine. C'est l'Euro 2022 actuellement et une très mauvaise nouvelle pour l'équipe de France car Marie-Antoinette Katoto a dû déclarer forfait. Toutes les dernières informations RMC avec Anthony Reich, notre envoyé spécial sur place. A tout de suite sur RMC.
RMC, les grandes gueules du sport, 9h midi.
Jean-Christophe Drouet.
9h32 de retour dans les grandes gueules du sport. Merci infiniment de votre fidélité. Bonjour à tous. Nous sommes samedi matin. Si vous êtes sur la route des vacances, faites très attention à vous. Nous sommes là donc jusqu'à midi, toujours avec les GG, Simon Dutin, Olivier Giraud, Marie Martineau. Dans une dizaine de minutes, on s'en fout pas. Je vous donne des informations. Vous me direz si ça vous intéresse. Le Paris Saint-Germain qui songe à prolonger Lionel Messi. Information RMC Sport. Est-ce que ça vous intéresse? Ça vous intéresse pas? Marie Martineau, tiens, je viens de voir, par exemple, un petit teasing comme ça. Ça t'intéresse ou pas?
Pas du tout.
Pas sûr, ok, on verra en tout cas pour Olivier Giraud.
Non, mais je vais faire semblant.
Et pour Simon Dutin. Pas besoin de faire semblant dans cette émission. Si ça ne t'intéresse pas, ça ne t'intéresse pas, il n'y a aucun problème là-dessus.
RMC.
L'Euro féminin de football.
Le deuxième but pour l'équipe de France. Mac attaque. Marie-Antoinette Katoto. 2-0 pour les Bleus avec un ES à la fin après 12 minutes de jeu.
Et malheureusement, on n'entendra plus Jeannot Rességui. Vous comptez les buts de Marie-Antoinette Katoto lors de cet Euro, à peine qualifiée pour les quarts de finale de cet Euro féminin. Les Bleus n'ont pas eu le temps de fêter cette première étape passée. L'une des stars donc de cette équipe de France a dû déclarer forfait pour la suite de la compétition en raison d'une grave blessure au genou. Anthony Reich, notre envoyé spécial, est avec nous ce matin. Salut Anthony.
Salut Jean-Christophe, bonjour à tous.
Salut Anthony. Salut. Alors comment allait le groupe hier?
Clairement, hier après-midi, au moment de l'entraînement, vers 17h, heure locale, c'était un coup de massue qui s'était abattu sur le groupe France. Marie-Antoinette Katoto avait appris le verdict de sa blessure quelques heures auparavant. Et les Bleus, qui comptaient énormément sur l'attaquante parisienne, hein, qui devait être une des stars de cet Euro, qui est d'ailleurs une des meilleures attaquantes d'Europe, voire du monde à son poste, devait éclabousser la compétition par ses performances. Et elle était tellement importante dans le rendement offensif des Bleus, on le rappelle, hein, 15 buts cette saison avec l'équipe de France. Eh bien, les Bleus, les joueuses de Corinne Diacre ont vraiment accusé le coup hier et pendant quelques heures, en fait, presque, elles avaient oublié la joie et le bonheur d'être qualifiées après deux matchs de poule. Elles voulaient vraiment penser à leur coéquipière, très triste, mais en même temps, Katoto qui s'est exprimé juste avant l'entraînement devant le groupe en leur assurant de son soutien et leur demandant une petite promesse, allez au bout pour moi aussi s'il vous plaît, allez chercher ce titre. Et bien les Bleus se sont dit ok, c'est un surplus de motivation, on va y aller aussi pour elle, c'est une raison de plus pour continuer la route, pour continuer le chemin et aller vers notre objectif qui est le 31 juillet. Et à côté de ça, il faudra dans les prochaines heures, et le premier entraînement aujourd'hui vraiment important qui permettra de voir comment les Bleus vont vivre sans Marie-Antoinette Katoto.
Et tu as rencontré les joueuses, hein, hier, Anthony Rey, je vous propose d'écouter notamment Oulémata Sarr, attaquante également de cette équipe de France, sur le forfait de Marie-Antoinette Katoto.
On est très triste parce que tout le monde connaît les qualités de Marie, c'est une fille importante pour nous dans le groupe. On s'y attendait pas, donc on est vraiment triste. Après, on était motivés pour gagner cette compétition, mais je pense que ça va être une force encore supplémentaire pour gagner cette compétition. Et de toute façon, elle fait partie du groupe, elle est avec nous quoi qu'il arrive et on fera tout pour gagner.
Avec nous, quoi qu'il arrive, le forfait de Marie-Antoinette Katoto. Est-ce une cata pour les Bleus, oui ou non, Simon Dutin?
Non.
Marie Martineau?
Non.
Olivier Giraud?
Oui.
Olivier, tu prends la main, pourquoi oui, mon cher Olivier?
Pourquoi c'est une catastrophe?
Ouais.
Parce que sur le plan numéraire, sur le plan de la qualité, je pense que l'équipe de France féminine a tous les atouts et je pense qu'il y a des joueuses qui sont capables d'être très fortes. Sauf que quand tu construis une équipe tactiquement,
tu l'as construit autour d'un système. Et le système, il a été construit, imaginé pour aller au bout avec cette attaquante qui a fini meilleure buteuse du championnat. Et que le problème, c'est le coup de massue psychologique que ça met aux joueuses.
Oui, bien sûr. Petit mental, les gonzesses.
Mais non, mais
ça, je t'inquiète, j'ai le droit.
Non, mais c'est pas du tout là-dessus. C'est arrivé aussi aux messieurs avec Zidane en 2002.
Non, mais vous avez entendu Anthony Rec. Anthony, rajouter un petit
Zinedine
peu quand
Zidane
même.
Et
elle se pointe à l'entraînement hier après-midi, le coup de massue et tout.
Donc on va arrêter sur le truc féminin, ça devient agaçant, ça, à force. C'est le sport collectif.
Je prends ta défense parce que je sais que t'allais pas du tout sur ce terrain-là.
Ouais, carrément pas, non. C'est tout simplement, dans toute équipe, à un moment, l'Argentine va perdre son meilleur buteur ou son meilleur joueur. Lorsque tactiquement, tu as prévu quelque chose, tu le prévois de longue haleine. C'est-à-dire que tu fais ta préparation autour d'un système de jeu. Si demain ton système de jeu tourne autour de Messi pour l'Argentine, il se blesse, je suis désolé, ça met un coup de massue à toute l'équipe. Parce qu'il faut tout revoir. Il faut ton approche face à tes adversaires, il change complètement.
Si tu veux être champion d'Europe, il faut avoir quand même un peu la qualité pour la remplacer, faire autrement, t'adapter. Enfin, c'est ce qui fait aussi le jeu des sportifs de très haut niveau. Et c'est leur cas.
Oui, ça c'est les mots. Mais dans la réalité, ça fonctionne pas comme ça. C'est comme si à la grande époque, en plein match, et c'est déjà arrivé, Karabatic se blesse ou Thierry Omeyer se blesse. Il y a des moments tactiques lorsque la compétition a déjà commencé, et ben automatiquement ça te met un coup sur l'équipe, ça te met aussi la préparation mentale des remplaçantes, parce que tu te mets aussi dans un cadre de remplaçant et tu deviens titulaire, c'est une pression supplémentaire. Donc oui, ça va être compliqué pour cette équipe. Le prochain match, qui devait être un match pour faire tourner l'équipe, va devenir un match de concurrence pour savoir qui va être celle qui va remplacer Katoto, avec tout le poids que ça va poser dessus. Et donc ça sera plus un match de repos, ça sera déjà un match important pour savoir quelle équipe il faudra aligner, quel système il faudra pour aller remporter un huitième de finale. Donc non, c'est un coup de massue qui arrive à toutes les équipes, et que l'équipe de France est amoindrie sans Katoto, il faut le dire. Après, derrière, ça ne veut pas dire qu'elles vont pas s'en sortir.
Okay.
Mais quand t'as la meilleure buteuse du championnat qui se blesse, et surtout de la manière dont elle se blesse, ça met un coup à l'équipe.
On reviendra évidemment sur ton expérience avec le hand. Hein. Tu faisais un parallèle il y a quelques instants. Simon, pourquoi non pas une cata?
Parce que moi j'achète pas, hein, on met pas Marie-Antoinette Katoto au même rang que Zinedine Zidane, Lionel Messi, Nicolas Karabatic, on n'en est pas encore là, excusez-moi, c'est une jeune joueuse ultra talentueuse, elle est meilleure buteuse du championnat, effectivement, Corinne Diacre, elle la prend pas pour la Coupe du Monde 2019, donc il faut encore s'aguerrir au niveau international, ça n'enlève rien à son talent, effectivement, peut-être à l'impact psychologique que ça peut avoir sur ses adversaires, mais bon, en match de préparation, elles mettent 4-0, les Françaises mettent 4-0 au Cameroun, Katoto titulaire, aucun but marqué par Katoto, elles mettent 7-0, 7-0 au Vietnam, je crois, ou
7-0,
elle marque un seul des 6 buts inscrits en première période, alors qu'elle est titulaire. Bon, il y a quand même des joueuses dans cette équipe qui peuvent marquer. Et puis, je regardais en 2017, il faut que, si tu veux aller au bout, tu dois pas compter sur une buteuse. Il faut les Pays-Bas qui gagnent en 2017, elles ont deux joueuses, une joueuse à 4 buts, deux joueuses à 3 buts. T'as pas besoin d'avoir une top buteuse pour arriver au bout ou quasiment au bout. Les Danois avait deux joueuses à deux buts et pourtant elles vont en finale. Diacre a montré que dans son management de l'équipe de France,
la Grèce au foot, elle a été championne du monde.
Exactement. Mais tu vas prendre de l'eau à mon moulin. Corinne Diacre, j'en ai d'autres dans les tiroirs. Corinne Diacre a par ailleurs montré depuis sa prise de fonction qu'elle cultivait la gagne sans tête d'affiche. Elle a écarté dans le désordre Gaëtan Tiné, Amandine Henry, Eugénie Le Sommer. Donc je pense qu'elle a inculqué, et là je parle sous contrôle d'Anthony, la culture de la gagne par le collectif, hein, c'est souvent des poncifs dans le football.
Oui, depuis la culture de la gagne, on n'y est pas encore.
Oui,
avec cette équipe de France.
Alors déjà, moi je mettrais de toute façon un bémol, je pense que vu ce que montrent les Anglaises notamment, on n'a aucune chance de remporter l'Euro.
J'aime bien ton truc sur la culture de la gagne, elles ont gagné quoi pour l'instant?
Ah bah elles sont
non, mais arrête avec la culture de la gagne. Ça veut dire que là ils avaient l'équipe,
elles sont sur une série record de victoires. Elles ne perdent plus un match depuis Anthony va nous donner
le match officiel.
Le chiffre.
Arrête avec les matchs amicaux.
16 matchs sans défaite, voilà. Et
compétition officielle. On parle de pression.
L'exemple ultime, puisque vous voulez me comparer qu'à Toto à toutes les légendes de ce jeu masculin ou féminin. Regarde la finale de l'Euro 2016. Cristiano Ronaldo sort sur blessure. On se dit et alors elle est pour nous la coupe. Et on se fait tirer par un but de, j'ai même plus que
Eder. C'est sûr qu'il n'y a rien d'écrit.
Donc, parce que les mecs se sont transformés en disant que notre leader, il n'est pas là. Donc, moi, je crois à l'union sacrée, qu'Atoto n'est pas là.
Simon, il n'y a rien d'écrit. Et quand tu parles d'un joueur ou d'une joueuse qui n'est pas importante parce qu'elle n'a pas marqué de but sur des victoires, tu sais, quand tu as un très grand joueur dans ton équipe, tu sais ce que ça t'apporte. Ça te permet de pouvoir marquer des buts. Tu sais, quand tu as un grand joueur à côté, parce que les défenses se fixent sur le bon joueur. Et ça libère des espaces. C'est-à-dire que réellement, moi, j'étais parti sur le plan tactique. C'est-à-dire que le moment où tu n'as plus un point d'appui comme celui-là qui peut faire peur aux défenses.
Diani, c'est pas un point d'appui. Cascarino, c'est pas une facilitateuse. C'est pas quelqu'un qui provoque, qui dribble, qui crée des décalages. Attends, Guillermo, elle met un triplé au match aller. Il reste du monde quand même. On n'est pas dépendant de Katoto.
Non, mais je t'ai jamais dit ça. Je t'ai jamais dit ça.
Ah oui, mais si tu me dis que ça fixe l'attention des défenses, c'est que du coup,
la question, c'était est-ce que l'absence de Katoto est une catastrophe? Oui, je considère que c'est une catastrophe.
Bah moi, je considère que c'est dommageable, évidemment. Compris. C'est un coup dur, mais c'est pas une catastrophe.
Marie entre dans la danse.
Non, mais si c'était pas un grand spécialiste des jeux par équipe, je l'aurais démonté. Mais là, je peux juste me taire. Mais quand même, je voudrais juste revenir sur plusieurs choses. L'important dans une équipe, c'est justement l'équipe, ouais, merci quand même. C'est-à-dire qu'on nous rabâche ça à longueur de temps dans les grandes gueules, je pense à juste titre. Et donc Simon l'a très bien démontré. On n'est pas Katoto dépendant avec cette équipe de France. Je suis très content que tu aies cité Cascarino. Je l'ai trouvé extraordinaire sur le premier match contre l'Italie. J'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ce phénomène? Voilà, j'ai l'impression qu'il y a quand même une vraie volonté au sein de cette équipe. Il y a beaucoup d'envie, et ça se ressent sur le terrain. C'est palpable. Même pour quelqu'un comme moi qui ne maîtrise pas tous les rouages du foot. Au-delà de ça, c'est dans la difficulté que souvent tu te transcendes, c'est dans la difficulté que tu trouves des solutions, que tu t'adaptes. L'être humain est fait comme ça, l'athlète de haut niveau exacerbe cette qualité-là de l'être humain. Et donc
ça dépend de l'athlète, hein. Il y en a qui n'aiment pas ça, hein. Il y en a qui sont très forts pour se transcender, et puis il y en a qui n'aiment pas
du tout ça. C'est la différence entre les champions
et, ils sont de haut niveau, hein.
Et les grands champions. Et ces filles-là pourraient devenir des grandes championnes. En tout cas, c'est tout ce que je leur souhaite. Et voilà, c'est pas la première tuile qu'elles ont sur ce championnat. On a tous entendu parler de la gardienne et ses problèmes personnels. Voilà, tout ça, ça renforce les liens et le côté psychologique est super important au sein de cette équipe. Et je pense qu'au contraire, ça peut juste leur prouver à elles-mêmes, à toutes, qu'elles peuvent faire sans Toto, bien sûr que ça aurait été extraordinaire d'aller plus loin avec cette fille qui est super, mais elles pourront faire autrement et briller autrement.
Ce qui est fantastique, c'est qu'en fait, lorsqu'on se pose des questions comme ça, alors qu'on ne connaît pas la suite, c'est limite, on répond dans une boule de cristal. C'est-à-dire que tu donnes ce que tu ressens, les expériences que tu as vues des sports collectifs où à un moment, tu perds un joueur. Donc, c'est voué à, si demain ils réussissent, à être critiqué, dire tu dis n'importe quoi, bon, ça arrive souvent hein, dans ce qu'on dit, mais de manière pragmatique, si tu prends tous les éléments, c'est-à-dire que pour gagner, pour aller au bout, il faut que tout soit aligné. Le fait que tu perdes une des meilleures joueuses, tu n'es déjà plus aligné face aux autres équipes. Donc ça déséquilibre ton équipe, et si tu prends les plus et les moins, je suis désolé, pour moi, c'est un gros moins.
On n'a pas dit que c'était une bonne nouvelle.
Les copains, je reprends la main, et tu as raison de le préciser, vous êtes là pour nous apporter votre expérience et nous dire quelles sont les clés pour essayer de s'en sortir et quelles sont justement
notre ressenti.
À ce moment donné la psychologie de nos joueuses de l'équipe de France concernant ce forfait. Un nom pour la remplacer, Anthony Reich, tu sors toi aussi ta boule de cristal mais tu suis aussi cette équipe de France au quotidien, ça devrait être qui?
Mais on pense tout de suite à Khadija Toudiani, l'ailière du Paris Saint-Germain. Elle avait dépanné notamment dans l'axe de l'attaque française lors de la Coupe du Monde 2019, justement en France, et ça avait été plus ou moins une réussite. Elle n'avait pas marqué, mais elle avait réussi quelques bonnes choses. Donc ça serait la postulante numéro un. On pourrait aussi penser à Melvin Mallard, la jeune attaquante de l'Olympique Lyonnais, qui est plus une attaquante qui aime le déborder sur les côtés, mais qui est capable de prendre la profondeur. Il y a Oulemata Sarr qui a été sélectionné par Corinne Diacre, l'attaquante du Paris FC, notamment pour être la doublure de Marie-Antoinette Katoto. Mais des questions se posent autour d'Oulemata Sarr. Est-ce qu'elle a vraiment l'envergure pour être titulaire dans une compétition internationale? Ça, c'est une autre question. Donc ça serait les choix possibles. Et l'autre choix, c'est renverser la table, oublier ce 4-3-3 et passer avec deux pointes et deux attaquantes de pointe.
Merci beaucoup Anthony Reich pour ces précisions. On te retrouve tout le week-end sur RMC pour nous parler de cette équipe de France féminine. Prochain match Islande-France, le troisième match de poule. Les Bleus qui sont donc qualifiés pour les quarts de finale après deux victoires en deux matchs. 9h46, on se retrouve dans quelques instants, le zapping des GG. Le PSG songe à prolonger Lionel Messi. On s'en fout pas. À tout de suite.
RMC, 9h midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h49, de retour dans les grandes gueules du sport avec Marie Martineau, Simon Dutin, Olivier Giraud. À partir de 10h, Benoît Paire, croyez-vous au nouveau Benoît Paire? Il a donné une interview cette semaine. Vous l'écouterez, ce sera la punchline des GG. Mais tout de suite, on s'en fout pas.
Le zapping des grandes gueules du sport.
Allez, plusieurs informations à vous donner, l'actualité de la semaine, de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première à vous donner, c'est le Paris Saint-Germain qui songe à prolonger Lionel Messi. On s'en fout pas, Olivier Giraud?
On s'en fout pas.
Simon Dutin?
On s'en fout pas.
Ça, je me doute, toi qui adore Lionel Messi, un homme de goût. Marie Martineau?
Je vous écoute.
Comme indiqué par Marca et confirmé par RMC Sport, le PSG a donc pris la température pour une prolongation d'un an de Lionel Messi, dont le contrat s'achève en juin 2023. Alors c'était déjà l'idée du club avant de le faire signer en 2021. Paris souhaitait lui offrir un bail de 3 ans ou 2 ans avec une année en option, mais cela s'était finalement terminé sur 2 ans. Sans option, pas de proposition concrète formulée aujourd'hui, mais en tout cas, c'est l'idée du Paris Saint-Germain. Simon Dutin.
Moi, je pense que ceux que cette information n'intéresse pas ou ne rend pas heureux,
c'est pour toi,
sont des gens qui, je sais pas, les mêmes qui considèrent que Lionel Messi a été un joueur désastreux cette saison, lui qui a terminé meilleur buteur de Ligue 1,
meilleur passeur de Ligue 1.
C'est également celui qui a touché le plus de fois les poteaux et les montants. Oui, bah, preuve qu'il s'est quand même approché du but. Alors c'est vrai qu'il a pas inscrit 50 buts cette saison. C'est vrai qu'on est un peu déçus quand même. C'est pas foufou quand même.
T'achètes la prolongation de Messi?
Moi j'achète évidemment. Moi j'ai vu le vrai Messi. Je pense qu'il a eu l'intelligence de se mettre au service d'une équipe qu'il découvrait. À mon avis, il va se fâcher très fort avant la Coupe du Monde. Ça m'étonnerait pas qu'il fasse une énorme saison. Ça reste pour moi le plus grand joueur de l'histoire du football. Et je pense qu'effectivement, tant qu'il aura un petit peu d'essence dans le moteur, si t'as les moyens de garder un joueur pareil, évidemment, il faut pas s'en priver.
Ok, tu achètes Olivier Giraud la prolongation de Lionel Messi? Enfin, tu achètes, tu as pas des pour c'est des ronds. Hein, je te rappelle.
Non, moi j'ai pas les moyens. Lionel Messi, meilleur joueur du monde depuis très 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 longtemps, 35 ans.
Depuis quelques jours,
qui pourrait prolonger Messi à part le PSG? Donc, en termes de promo, d'avoir le meilleur joueur de tous les temps, comme le dit Simon, dans son effectif juste à temps qu'il arrête, oui, c'est une option importante pour le PSG. Le PSG qui doit alterner aujourd'hui avec cette nouvelle philosophie entre utiliser ses jeunes du centre de formation, ne plus être bling bling, ça ne veut pas dire ne plus avoir d'ambition et ne plus avoir les meilleurs joueurs, en tout cas les joueurs les plus connus dans son effectif. Donc je pense que Messi, de toute manière, ne peut pas aller autre part et que, en toute logique, il re-signe avec le PSG.
Ok, on parle aussi d'une pré-retraite, entre guillemets, soit aux États-Unis, soit dans son pays, en Argentine. Mais vous, en tout cas, vous êtes pour une prolongation de Lionel Messi. Sachez qu'on reparlera du Paris Saint-Germain à partir de 11h. On parlera du traitement des lofters. Est-ce que vous êtes choqué ou pas?
Les lofters, les GG, c'est mignon, ça.
Ouais, c'est sympa. Hein,
ouais, j'aime bien.
Ouais, ça nous fait revenir un petit peu en arrière, au début des années 2000. En tout cas, on rejoindra Arthur Perrault, notre envoyé spécial sur place au Japon pour cette tournée japonaise des Parisiens. Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est Joël Embiid, star de de la NBA qui est donc naturalisé français depuis cette semaine. On s'en fout pas. Marie Martineau.
Pourquoi tu me regardes comme ça?
Parce que je sais que t'adores le basket.
Non, je m'en fous pas.
Ok, tu t'en fous pas. Simon Dutin.
Je m'en fous pas.
Olivier Giraud.
Non, on s'en fout pas.
Le basketteur camerounais Joël Embiid, l'un des joueurs vedettes de la NBA, a donc obtenu la nationalité française selon un décret du 4 juillet publié dans le journal officiel, ce qui ouvre évidemment la voie à sa possible intégration en équipe de France dans la perspective des Jeux Olympiques 2024 de Paris. Je voudrais vous confier cette citation, cette phrase jointe par RMC de Mustapha Fall qui s'est exprimé sur cette possible arrivée et il serait l'une des premières victimes de la sélection ce joueur incroyable de Philadelphie. Je ne suis pas un gars qui se projette, donc je ne me prends pas du tout la tête avec ça. S'il est là, c'est sûr qu'il faut le prendre. C'est un joueur qui peut être MVP en NBA tous les jours. C'est sûr que je suis concerné au niveau de l'éthique, ça peut poser problème parce qu'on ne fait jamais ça, mais de l'autre côté, les règles sont les règles, donc on joue selon les règles. S'il est là, il faudra faire avec, c'est la loi du sport. S'il y a meilleur que toi, il joue, c'est simple.
Bah oui.
Non,
mais le principe est le même et il marche dans les deux sens. On a des fois des fuites de nos talents vers l'étranger et des fois on a des personnalités qu'on arrive à naturaliser et à faire d'eux des Français. Je trouve que pour ça le sport est plutôt chouette. Et alors c'est vrai que c'est un peu particulier dans le cadre d'un sport d'équipe parce que comme tu le disais à juste titre, s'il vient, il va peut-être prendre la place de quelqu'un d'autre. Mais je crois pas qu'on raisonne comme ça dans le sport. On raisonne en termes de qualité et puis bienvenue à lui. Si ça va au bout, cette histoire.
Ok, Simon.
C'est un des meilleurs joueurs du monde. Les Américains se naturalisent en Espagne, en Hongrie, en Bulgarie, en Italie, depuis la nuit des temps, et ça choque personne. Là, il vient d'un pays francophone. Enfin, la culture francophone. Il y a rien de déconnant. Il faudrait comprendre un petit peu les raisons parce qu'il est quand même très investi par le développement du basket sur le continent africain. Donc, effectivement, au Cameroun, on grince un peu des dents. On espère qu'il va continuer à jouer pour la sélection.
Un peu.
et on se met à leur place, évidemment. Même Rudy Gobert, qui est le pivot titulaire en équipe de France, a salué le fait que quand t'as un joueur comme ça, effectivement. Donc, si on gagne les jeux avec Joel Embiid, on va pas s'en priver.
Olivier, rapidement.
Moi, je suis pas trop pour ce genre de truc. Tu sais, on se bat dans les championnats français aujourd'hui pour qu'il y ait le plus de joueurs issus de la formation française qui jouent et qui après puissent remplir nos équipes de France. Donc, on a mis des quotas dans beaucoup de sports où, en fait, dans ton effectif, tu peux pas avoir que des joueurs étrangers. Tu es obligé d'avoir au moins 40% des joueurs de la formation française à l'intérieur. On l'a fait au rugby. Regarde les résultats au rugby. On l'a fait au handball. Regarde les résultats au handball. Aujourd'hui, le basket est à très très haut niveau, le basket français. C'est-à-dire qu'ils sont médailles d'argent, ils ont des ambitions. On n'a jamais eu autant de pivots de grande taille. C'est-à-dire que tu parlais, quelle classe, Mustapha Fall? Sa réponse, c'est la très grande classe. Parce que automatiquement, il est touché. On a deux pivots de 2m18, Mustapha Fall et Rudy Gobert. Et aujourd'hui, on est en train de me dire qu'on fait ce qu'on reprochait aux Polonais qui ont recruté le Cubain au volet. Aujourd'hui, vous allez me dire que ouais, c'est super.
Non, mais Olivier,
je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. C'est pas un club. L'équipe de France, ce n'est pas un club. C'est tu représentes ton pays. C'est-à-dire que si tu n'as pas été formé, c'est-à-dire qu'on a des joueurs naturalisés, mais qui ont été formés à la formation française. Cela, oui. Mais si tu commences à te dire que n'importe qui peut prendre le maillot français sans avoir été formé en France
et qu'il peut venir,
c'est l'un des premiers, et que pour gagner, tu es capable de remplacer pratiquement toute ton équipe de France et que ça n'a plus rien à voir avec une équipe de France. Voilà, je suis désolé.
Tu pousses le système à l'extrême,
c'est que quand tu commences comme ça. C'est-à-dire qu'après, tu peux tout faire et quelle est la représentativité de porter le maillot français.
Je suis désolé.
Oui, il peut le faire parce qu'il a raison, Mustapha Fall. Il a raison, Mustapha Fall. C'est autorisé. Donc, la France le fait. Mais ça ne veut pas dire qu'éthiquement, on est obligé de l'accepter.
Ok, voilà, c'était le coup de gueule d'Olivier Giraud. Je rappelle que l'équipe de France de basket a le droit à un naturalisé et donc, ce sera peut-être Joël Embiid naturalisé, mais pas encore sélectionné, évidemment. 9h57, on se retrouve dans quelques instants pour la punchline des GG. On va vous parler de Benoît Paire. Ça fait longtemps dans cette émission. Croyez-vous au renouveau? Au nouveau Benoît Paire? Oui, non, les GG ne sont pas d'accord. À tout de suite sur RMC.